Et le samedi, sur France Inter, à 8h moins le quart, c'est la main verte avec Alain Baraton. Mon cher Alain, c'est un plaisir de vous retrouver.
Plaisir partagé. Bonjour Pierre, bonjour Patricia.
Bonjour Alain.
Quel bonheur que de vous écouter parler des Who qui ont bercé ma jeunesse.
Absolument.
Eh bien oui.
My Generation, vous vous souvenez?
Tout à fait. Hein, et ce qui est extraordinaire, oui, c'est que ces chanteurs aient réussi à atteindre l'âge qu'ils ont quand on sait leur vie.
Absolument. Il y en a qui ont mal tourné quand même. Le batteur des Who, Keith Moon, malheureusement, n'a pas pu supporter tous les produits qu'il a ingurgités au fil des années.
C'est sûr.
Mon cher Alain, c'est une bonne idée que de donner à une plante le nom d'un botaniste.
Oui, car en faisant ainsi, on offre par exemple à Peter Kalm, peut-être pas une gloire posthume, mais au moins, et cette chronique en est la preuve, que son nom ne soit jamais totalement oublié.
Mais Alain, qui est donc Peter Kalm ?
Alors, il est né en Suède en 1716, il est botaniste et il est un élève de Carl von Linné, l'un des plus grands scientifiques de tous les temps. Linné, pour vous le situer, c'est l'homme qui a baptisé la majorité des plantes que nous connaissons. Alors, Peter Kalm, en 1746, devient professeur assistant d'histoire naturelle dans la prestigieuse Académie royale d'Abo, la future université d'Helsinki. La qualité de son travail le fait connaître et apprécier aussi. Est-ce lui qui est envoyé en Amérique pour étudier les végétaux utiles aux hommes?
Et alors Alain, après avoir visité la Pennsylvanie, vous me l'avez raconté, il se rend au Canada.
Oui, il ne perd pas de temps. Imaginez que cet homme pose le pied sur le sol américain en 1748, se rend au Canada puis inspecte les rives du Saint-Laurent en 1749. On le retrouve en 1750 dans le New Jersey et il trouve l'âme sœur, il se marie l'année suivante, il est de retour en Suède et crée un jardin botanique, non pas chez lui en Suède, mais en Finlande.
Et il aurait découvert, lors de ses voyages, beaucoup de plantes.
Sur les 90 végétaux qu'il décrit et ramène dans son pays, les deux tiers sont alors totalement inconnus. Linné est si fier de lui qu'il va donner le nom de ce disciple, Peter Kalm, à un bel arbuste, le Kalmia.
Mais pour être précis, et là je parle sous votre contrôle, il en existe plusieurs espèces.
Vous avez raison de le préciser, il existe 8 espèces de Kalmia, toutes originaires d'Amérique du Nord et de Cuba. Ce sont de beaux arbustes qui peuvent atteindre 3 mètres de hauteur. Et celui que l'on voit le plus dans le jardin est le Kalmia latifolia, aussi appelé laurier de montagne ou encore d'Amérique. Ses feuilles sont persistantes, il se plaît en situation mi-ombrée ou au soleil et il fleurit très joliment, le plus souvent rose ou blanc, de mai en juillet. Le Kalmia pousse dans la terre de bruyère important, parfait en mélange, Patricia, si vous avez un massif de rhododendron, et il résiste au gel jusqu'à moins 15 degrés.
Mon cher Alain, Peter Kalm n'est pas le seul à avoir donné son nom à une plante.
Eh non, Pierre Mangel a donné Magnolia, Joseph Camel, Camélia, Michel Bégon, Bégonia, William Forsythe, Forsythia, et je pourrais ainsi continuer longtemps, très longtemps à en parler. Alors,
il y aura bientôt un baratonia.
Ben, je l'espère. Ce serait quand même beaucoup d'allure. Alors, justement, il n'y a peut-être pas de baratonia, mais il y a un homme qui s'appelait Jean-Pierre Coff, qui adorait la botanique et qui a un jardin qui est toujours merveilleux. Et je vous laisse signaler qu'aujourd'hui et demain, eh bien, ce jardin est ouvert à la visite, l'occasion de rencontrer déjà le compagnon de Jean-Pierre Coff qui entretient ce lieu merveilleux, de faire connaissance avec les végétaux à écorce décorative. C'était le dada de Jean-Pierre Coff. Il en avait planté absolument partout. Et puis également de rencontrer, eh bien, des pépiniéristes comme la pépinière Ennebel qui viendra sur le site présenter les arbres à écorce justement décorative. C'est donc demain et après-demain. C'est à la Duchalettière, c'est près de Châteaudun. Allez sur le site internet, mais c'est l'occasion vraiment de rencontrer un jardin qui n'a pas seulement été fait avec talent, mais avec le cœur.
C'est joli ce que vous dites, rencontrer un jardin.
Eh oui, tout à fait.
Alain Baraton, les questions, elles sont nombreuses pour vous. Muriel nous a écrit, est-il utile de supprimer les fleurs fanées d'un hortensia grimpant?
On fait simple, Pierre. En général, toute plante qui produit une floraison assez volumineuse, il est bon de la couper. Parce que je vous pose la question, Pierre, sans vouloir me moquer de vous, bien entendu. Quand une plante fleurit, ensuite, que produit-elle? Pourquoi fleurit-elle? Eh bien oui,
expliquez-moi.
Eh bien, vous avez raison. Elle fleurit pour produire des graines et un fruit.
Oui.
Or, c'est justement cette fructification qui fatigue au plus haut point la plante. En coupant la fleur, vous lui privez ainsi de s'épuiser et vous gagnez en énergie. Le rosier est beau lorsqu'on coupe les fleurs fanées. C'est l'une des astuces pour avoir toujours des massifs merveilleux. Donc, l'hortensia grimpant, car oui, cela existe. Il existe bien des hortensias grimpants. Ce sont comme des hortensias avec des lianes. Oui, je conseille à l'automne de couper couper les fleurs fanées. J'en profiterai même pour couper les branches mal positionnées, faire un petit coup de nettoyage et ça sera reparti pour le printemps magnifiquement.
Question de Daniel. J'ai un petit jardin dans Paris dans lequel nous avons planté des bambous. Ils se sont étendus, empêchant les autres plantes de se développer. Je n'arrive pas à m'en débarrasser.
Il y a des questions un peu récurrentes qui reviennent régulièrement. On ne plante pas des bambous n'importe où, n'importe comment. On se renseigne sur les variétés. Il existe des centaines de variétés de bambous. Cessez d'employer toujours les
espèces... Arrêtez d'engueuler les auditeurs. Invasives.
Non, il faut de temps en temps, je vous assure.
Le bambou, c'est pour les pandas, non?
Vous avez raison. L'occasion d'ailleurs de rappeler que le bambou est l'une des variétés de plantes qui poussent le plus vite. Et dans les forêts de pandas, certaines essences vont jusqu'à pousser de 80 cm par jour. C'est absolument démentiel complet. Et il est vrai que l'importance de la Chine a été de replanter des forêts de bambou pour permettre au petit animal de ne pas disparaître. Mais on n'est pas en Chine, on est en plein cœur de Paris. Et le bambou effectivement a quelques problèmes. Quand on plante des bambous, on installe dans le sol des voliges, à savoir des tiges métalliques, pas des tiges, des plaques métalliques, pour éviter que les rhizomes ne se propagent trop. Et puis, il n'y a pas à dire, on donne des coups de bêche, on arrache et on finira par y arriver à les éliminer. Donc, l'huile de coude.
Barbara nous écrit, existe-t-il une méthode simple et rapide pour faire blanchir les feuilles de frisée?
Oui, en les privant de lumière, tout simplement. Le blanchiment des feuilles, c'est l'absence de photosynthèse. Vous prenez un pot de terre, vous le mettez au-dessus de la frisée quand elle est prête à être consommée. 8 jours plus tard, elle est devenue blanche, craquante et pas dressée avec quelques petits lardons. C'est une merveille.
Mon cher Alain Baraton, on se retrouve demain matin sur France Inter à 8h moins le quart pour une autre main verte.
Et là,
d'accord,
j'écoute avec attention maintenant l'invité de Patricia Martin.
Voilà, il est 7h51.